du Vent part aujourd'hui sur les rives du dernier fleuve sauvage, le Mékong, grâce à un reportage d'Alain de Valpeau. Le Mékong, un géant d'Asie du Sud-Est, Arnaud.
Oui, le Mékong et ses 4800 km de long appartient à la famille des grands fleuves. Il prend sa source sur le plateau tibétain à plus de 5000 mètres d'altitude. Ensuite, il dévale les pentes du Tibet et de la Chine, longe la Birmanie pendant un temps et devient frontière entre le Laos et la Thaïlande. Et enfin, traverse le Cambodge et le Vietnam.
Alain de Valpeau, pour ce reportage, vous vous êtes rendu à Vientiane. Bonjour déjà, je ne vous ai même pas dit bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est la capitale du Laos, Vientiane. Pourquoi avoir choisi cette ville pour démarrer ?
Parce que c'est là que siège un acteur important, la MRC, la Mekong Commission River, en français la Commission du Mekong. Et de ce fait, de nombreux spécialistes du fleuve travaillent dans cette ville. Autre raison, la majeure partie du potentiel de production d'électricité du fleuve se trouve au Laos et ce pays est la cible de nombreux projets hydroélectriques. Mais avant d'évoquer ces projets futurs, je vous propose de découvrir ce qui se passe aujourd'hui au bord de l'eau. Vientiane, comme toute la région, est en pleine croissance, on y construit beaucoup. Il faut du béton, donc du sable, des graviers. Et le plus simple, c'est d'aller draguer ce sédiment dans le lit du Mékong, ce qui n'est pas sans conséquences. Nous sommes dans le village de Kok Sai, à quelques kilomètres de la capitale. Nous accompagne Solia, un jeune homme dont la famille habite ce village. Nous sommes au bord du fleuve. Solia, nous sommes ici au bord du Mékong.
Oui.
Les camions passent derrière nous, ils sont très nombreux, c'est un va-et-vient continuel. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces camions?
They come for get the sand and the rock.
Ils viennent chercher de la roche et du sable.
Okay. For la ville.
Pour l'emmener à la ville.
It's a good thing because we have the new construction, the building, the house, but the bad thing in the village, make the bad road.
C'est une bonne chose à la ville que de voir les constructions fleurir, mais ici au village, évidemment, ça provoque beaucoup de désagréments. Mm-hmm. Cela fait combien de temps que ces camions font cet aller-retour
Toute la journée, every time.
Toute la journée, tout le temps. Mais depuis combien de temps, depuis combien d'années?
Depuis, when they start on the winter season, they still do like this every day, non-stop, all the weekend, all months. Until flooding again, they stop it.
Durant toute la saison qui n'est pas la saison des pluies, c'est-à-dire lorsque le Mékong commence à se retirer, ce manège des camions recommence jour et nuit, toute la semaine, le week-end. Soulia, il y a 10-15 ans, quand vous, enfant, vous veniez sur les bords du Mékong, c'était comment ici?
10 years or 15 years ago, here is the nice beach. It's like a... For the local people, for us, we think this is the sea. We have a good bridge, no pollution, no car, no camion, no truck, and no the bad thing from the humans. Only the sand, the rock, and the garden.
Il y a 10-15 ans, ici, c'était une plage magnifique. On venait en France se baigner ici comme on allait à la mer. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas tous ces sacs plastiques, toutes ces bouteilles vides que maintenant l'on voit. Il n'y avait que l'eau, la plage et puis les plantations qui sont derrière nous.
You can see many fishermen here in the past time because right now we have the machine for get the rock in the Mekong, so the fish is no more here. It's go. You can see only one or two.
Alors qu'aujourd'hui on ne peut observer qu'un ou deux pêcheurs, à l'époque beaucoup de pêcheurs étaient là, mais évidemment avec les travaux et le bruit provoqué par les travaux d'excavation, les poissons ont fui et donc les pêcheurs ne viennent plus.
Je m'appelle Marc Guachot, je travaille pour le WWF ici au Laos pour un programme qui travaille sur le fleuve Mékong. Ce cours d'eau est guidé par la structure géologique, c'est-à-dire que le rocher ou le substratum est toujours très très proche. Et au cours des dizaines de milliers d'années qui ont précédé, millions d'années qui ont précédé, il a creusé la roche. Il a pris très très longtemps à creuser la roche et maintenant il est coincé dans cette roche. Donc il ne peut plus se déplacer. Et seulement dans la dernière partie, les 500 derniers kilomètres, au milieu du Cambodge et dans le delta au Vietnam, que ce cours d'eau se retrouve sur le sable qu'il a descendu de la montagne. Et dans ce sable, il peut le bouger, ce sable. Donc il peut se déplacer. Et il se déplace en fonction de son énergie, c'est-à-dire l'énergie que la pente lui donne et l'énergie qu'il dissipe, qu'il utilise en déplaçant le sédiment. S'il a beaucoup de force, beaucoup de pente, donc il prend du sédiment pour réduire cette force. Et si au contraire, il n'y a pas de pente, donc il dépose son sédiment pour pouvoir continuer. Si on change les conditions en amont, si on enlève le sédiment dans le cours d'eau, quand il arrive dans le delta, quand il arrive au Cambodge et au Vietnam, il a beaucoup de force et pas de sédiment. Donc il ramasse le sédiment qu'il a déposé là et il l'amène dans la mer. Et en faisant ça, il s'enfonce et il élargit son cours. Donc il détruit l'habitat naturel, mais il détruit aussi les maisons sur les berges. Et dans le delta, il provoque l'érosion du delta, c'est-à-dire le recul du delta. Et encore une fois, on perd de la terre sur la mer. Donc c'est un des cours d'eau au monde dont le delta est le plus fragile. Et comme le changement climatique vient aussi affecter les côtes, donc à la fois le delta s'abaisse parce qu'il manquera de sédiments ou que l'eau a trop de force et qu'elle amène le sédiment au fond de la mer, et en même temps la mer remonte. Donc les populations qui habitent dans le delta du Mékong au Vietnam sont très vulnérables, donc c'est une situation très difficile.
Comprends donc bien, Alain de Valpeau, que sur un fleuve comme le Mékong, toute action d'un pays en amont sur le cours peut avoir des conséquences sur l'activité humaine dans les pays en aval.
Alors on considère aujourd'hui le Mékong comme le dernier grand fleuve sauvage au monde. Est-ce que c'est une réalité ?
Cette région d'Asie du Sud-Est a été secouée au XXe siècle par de nombreux conflits très meurtriers. Et bien paradoxalement, cela a protégé le Mékong des grands projets d'aménagement qui ont été réalisés sur d'autres fleuves. Et de ce fait, aujourd'hui, sa biodiversité reste encore mal connue et le fleuve continue à occuper dans les esprits une place privilégiée. Somsanuk Michai est journaliste à Vientiane. Il évoque l'importance spirituelle du Mékong.
Mékong veut dire déjà Mékong, mère de toutes choses, mère de toutes choses. Donc c'est la mère nourricière. Et le Lao porte une vénération en même temps qu'une crainte pour le Mékong. Une vénération, ça se traduit par des fêtes, des offrandes, notamment à la sortie du carême bouddhique au mois d'octobre, tout le monde se rend au bord du Mékong, avec une petite barquette qu'on appelle des bateaux de lumière, pour rendre hommage à Bouddha, également au Mékong, et à tous les esprits protecteurs, et notamment au Naga. Le Naga, c'est le grand serpent mythique qui habite le fleuve, et qui sont les protecteurs des grandes villes du Laos, et également du Laos en général, par exemple. Il y a 11 nagas qui ont présidé à la fondation de Vientiane et qui protègent Vientiane. Et il y a un endroit à Vientiane où, quand la ville est attaquée par ses ennemis, les Vientianais viennent appeler les nagas qui remontent par un souterrain au cœur de la ville et qui apparaissent au cœur de la ville. Et donc, dans la légende, les Siamois ont attaqué Vientiane à deux reprises au 19e siècle a mis à sac la ville en construisant un stupa sur le trou par lequel les nagas devaient venir sauver et protéger les Vientianais. Et c'est pour ça que les Vientianais ont été défaits et la ville a été mise à sac et a brûlé à deux reprises au 19e siècle.
Parmi les animaux qui peuplent le Mékong, il y a les esprits, les nagas. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont aussi donné lieu à d'autres histoires dans la mythologie là-haut ?
Eh bien, il y a les nguak. Les nguak, c'est aussi un peu les grands serpents mythiques, mais qui sont plus, disons, plus maléfiques. Alors, quand on dit aux enfants, si tu n'es pas sage, on va te donner aux nguak. Nguak, alors. C'est quelque chose d'effrayant, c'est un naga effrayant. Et quand quelqu'un se noie, par exemple, on dit bon, c'est le meurtre qui est venu l'emporter pour le manger. Et surtout, si c'est une jolie fille qui se noie, alors là, c'est le meurtre qui est venu la prendre pour emporter, pour se marier avec elle.
Le Mékong a beaucoup, abrite beaucoup d'espèces, donc il y a des espèces aquatiques et aussi des espèces terrestres.
Marc Guachot du WWF.
Il faut savoir que le Mékong abrite au moins 1300 espèces de poissons, c'est-à-dire beaucoup plus que n'importe quelle rivière du monde tempéré. Nos rivières en quelques dizaines au maximum, nos rivières comme les rivières françaises ou les fleuves français. Une partie de ces poissons sont endémiques. Il n'existe que dans le Mékong et nulle part ailleurs. Il y a un poisson qui est très connu ici, qui s'appelle le plaboc en langue locale, mais qui en français s'appelle le poisson chat géant. C'est le poisson chat géant du Mékong qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, qui peut peser jusqu'à 300 kg, ce qui en fait probablement le poisson d'eau douce le plus grand au monde. Donc il est là, c'est un migrateur. Il a été pêché pendant des années. Maintenant, la quantité de poissons pêchés a diminué beaucoup. Il est lui aussi en péril. Donc on travaille aussi pour le protéger. Il y a aussi une raie géante. Si on regarde les 10 poissons d'eau douce les plus grands dans le monde, il y en a 4 dans le Mékong. Donc c'est un cours d'eau de géant. La tortue à carapace molle géante aussi, qui vit dans la boue, dans les bras du Mékong, dans le nord-est du Cambodge aussi. Encore une fois, elle va être parmi les premières affectées si le sédiment diminue, parce qu'elle habite dans le sédiment et elle passe son temps dans la boue. Si on veut mettre son nom sur un animal, c'est dans le Mékong qu'il faut venir. Au cours des 10 dernières années, il y a eu 1000 nouvelles espèces découvertes dans le Mékong. C'est-à-dire plus que n'importe où ailleurs. Ça fait une toutes les deux semaines. C'est immense.
Est-ce que vous avez donné votre nom à un animal, Alain de Valpo?
Non, pas encore.
Alors, comment est-ce que toutes ces richesses du Mékong sont-elles exploitées aujourd'hui?
Cette richesse naturelle du Mékong est la source de diverses activités. Deux exemples, la pisciculture et le tourisme. Monsieur Tan a une petite embarcation avec laquelle il balade des touristes. Mais avant de monter à bord, voici Philippe Caco. Il travaille pour l'Institut de recherche, le CIRAD. Il vit aujourd'hui au Laos, mais il a beaucoup travaillé dans le delta du Mékong.
Le delta du Mékong donc, est une zone très dynamique sur le plan de la pisciculture, donc l'élevage des poissons, pour diverses raisons qui sont aussi liées à des raisons géographiques très particulières. Le delta du Mékong est une zone qui bénéficie de conditions hydrologiques exceptionnelles, avec de l'eau toute l'année en abondance, mais pas trop. Une crue quand même assez limitée, et puis quand même beaucoup d'eau en saison sèche. Avec une température de l'eau ne descend jamais au-dessous de 23 degrés, donc ce qui est très intéressant pour la croissance des poissons. Donc les Vietnamiens ont su exploiter depuis très longtemps, au moins un siècle, ces qualités du milieu pour développer une production de poissons qui est aujourd'hui très importante. La production aujourd'hui de ces poissons-chats Pangasius est aujourd'hui de l'ordre de 1 300 000 tonnes. C'est une des plus grosses filières aquacoles mondiales, comparable au saumon, au tilapia. Avec en particulier une exportation très importante sous forme de filets congelés qu'on trouve aujourd'hui en Europe sous le nom de panga. Le delta du Mékong, on va dire, c'est le poumon agricole économique du pays. L'agriculture est faite partout au Vietnam, la pisciculture de même, mais le delta, c'est la zone qui permet les exportations agricoles du Vietnam. Au nord, par exemple, où tout est également très intensif, très productif, les contraintes géographiques, climatiques locales font que bon, tout est quasiment consommé localement. Le delta du Mékong permet des excédents qui sont exportés et qui contribuent grandement aux rentrées de devises du pays. En particulier, c'est ce qui permet au Vietnam de se positionner comme deuxième exportateur de riz mondial. Jusqu'à récemment, parce que la demande locale a aussi beaucoup augmenté au Vietnam.
Plus en amont, aux environs de la ville de Luang Prabang, au Laos, nous retrouvons Monsieur Tan.
Voilà. Nous voici au niveau de l'eau. Monsieur Tan, votre embarcation qui est devant nous, elle fait combien de longueur ?
Ah, à 13 mètres.
Elle a la forme d'une pirogue.
Oui.
C'est construit dans un seul tronc.
C'est le bois très solide. C'est le bois naturel, c'est le bois dans la forêt. Là aussi, on dit maïken.
Ça doit être un bel arbre pour faire une belle, un beau bateau comme celui-là.
Oui. Ce bois peut rester dans l'eau à peu près 10 ans. C'est très solide. C'est un petit bateau pour emmener les touristes aux côtes, aux cascades ou dans les villages qui ne sont pas très longs.
Qu'est-ce qu'on voit aux grottes?
À l'intérieur des grottes, il y a beaucoup de statues de Bouddha et quelque chose d'antique.
Et elles sont grandes, ces grottes?
Il y a deux grottes, la première et la deuxième. La première est claire, mais la deuxième, on peut prendre la lumière, parce qu'à l'intérieur, il fait noir. Les couloirs s'enfoncent profondément sous terre.
Et on peut rentrer dans les grottes en embarcation?
Ah oui, on peut entrer.
Et la cascade?
Et la cascade, c'est naturel. Mais il y a des piscines naturelles. On peut se baigner, nager, et marcher dans la forêt, monter dans la montagne. On peut faire aussi le pique-nique comme ça.
Moi, je monte à bord. Monsieur Tan monte lui aussi à bord.
Pouvez-vous s'asseoir par là, de l'autre côté?
Ah, de l'autre côté. Bon, ouais. Comme ça, l'équilibre.
C'est pour l'équilibre.
Oui, effectivement.
Là, c'est
la rame.
On va partir, hein?
Oui, repartons. Et le moteur est parti.
Alors on entend bien hein, toutes les richesses de ce fleuve Mékong, mais c'est vrai qu'il faut une vision d'ensemble du fleuve pour que chacun des pays traversés par le Mékong puisse développer ses activités.
Et ce ne doit pas être si simple parce que le Mékong traverse 6 pays qui ont tous été en conflit les uns avec les autres.
C'est pour cela qu'il existe la MRC, la Commission du Mékong, dont le secrétariat siège à Vientiane. La coopération autour du Mékong est une histoire presque aussi vieille que l'Union européenne. En 1957, l'Organisation des Nations Unies a impulsé l'ancêtre de l'actuel MRC, qui s'appelait le Comité du Mékong. À la fin des années 70, le Cambodge se retire de la table ronde en raison des événements politiques qui ont secoué ce pays et il réintègre la commission en 1995. Et c'est une commission nouvelle formule. Aujourd'hui, cette commission regroupe 4 États membres, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande et le Laos, et 2 pays observateurs, la Chine et la Birmanie. Un détail important, cette organisation, depuis 1995, est beaucoup moins dépendante des Nations Unies. Et le directeur actuel du secrétariat est anglais.
I'm Jeremy Bird. I'm the Chief Executive Officer of the Mekong River Commission Secretariat.
Je suis Jeremy Bird, je suis le directeur du secrétariat de la Commission du Mékong. La région du Mékong est une région au développement très rapide, où il y a un nombre très important de ressources naturelles que les pays cherchent à exploiter, dont les ressources hydroélectriques. L'hydroélectricité est une énergie renouvelable qui peut être exploitée au Laos, au Vietnam et dans une partie du Cambodge pour être vendue en Thaïlande, au Vietnam et en Chine. C'est une ressource renouvelable, mais le grand défi pour le Mékong est de voir comment on peut en tirer profit de manière durable dans l'intérêt des 4 pays membres. Notre travail en tant qu'entité indépendante représentant ces 4 pays est de poser sur la table des décideurs des informations objectives sur les impacts, non seulement de chaque projet, mais de l'ensemble des projets pour que de bonnes décisions soient prises. En fonction de cet accord, de l'intérêt des pays et partant du fait que les pays ont commencé à échanger des informations, nous allons voir de nombreux débats autour de ces projets. Ces débats ont déjà commencé dans les médias internationaux et locaux, donc les décisions ne seront pas prises derrière des portes fermées.
Dans les prochaines années, combien de barrages vont être construits sur le cours principal du Mékong?
Il est trop tôt pour répondre. Nous savons qu'il y a 8 barrages construits ou en projet, en amont, en Chine. 3 sont déjà opérationnels. Dans le bas Mékong, c'est-à-dire en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, pour l'instant, il n'y a aucun barrage de construit. Certains projets de barrages sont prévus depuis 40 ans et ils n'ont toujours pas été réalisés, donc il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe des procédures très formelles, que les pays vont débattre ensemble et analyser les informations pour décider si un projet peut être mis en œuvre ou pas.
Mon nom est Prem Merudi Darung. Je suis la co-directrice de l'organisation non gouvernementale Projet pour la récupération de l'environnement, aussi appelée Terra. Cette ONG est basée à Bangkok, en Thaïlande. La commission du Mékong a un passé très lourd. Au début, à la fin des années 50, tout le monde sait que le secrétariat du Mékong avait des liens avec les projets de barrage. Dans un sens, cette agence a été créée pour encourager les pays à discuter ensemble de la construction de barrages. En 1995, avec la création de la commission du Mékong, il a été dit que l'agenda avait changé et qu'il n'était plus centré sur la construction de barrages. Mais ces deux dernières années, avec une coalition de 200 organisations, nous avons questionné la commission sur ses relations avec les promoteurs qui veulent construire sur le cours principal du Mékong. Et la commission ne nous a jamais répondu sur ce point. La commission ne nous transmet pas l'information dont nous avons besoin à propos de chaque projet de barrage. Donc sur les points clés, nous n'avons pas de réponse.
Alors Alain de Valpo, on comprend bien qu'il y a débat autour de cette commission du Mékong, mais est-ce que c'est la seule entité à travailler sur le bassin du Mékong ?
Non Anne-Cécile, il existe la GMS, la Greater Mekong Subregion. Cet organisme a aussi une approche globale du bassin Mékong, mais plus économique, avec notamment des projets d'infrastructures routières. La GMS, c'est une grosse planète avec beaucoup de satellites qui gravitent autour, dont un certain institut du Mékong qui fait travailler les chercheurs des différents pays ensemble. Le Mékong est aujourd'hui devenu la source d'une vraie dynamique régionale. C'est la conclusion d'Arnaud Levaux. Il travaille à l'IRASEC, l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine, qui est membre de cet Institut du Mékong.
Le Mékong a été perçu jusqu'à une époque assez récente comme une barrière entre les différents pays de la région et il est devenu depuis quelque temps un véritable trait d'union entre les 6 pays membres de la région du Mékong qui dialoguent autour du développement du bassin du Mékong.
Est-ce que ce dialogue permet d'envisager un développement moins frénétique, moins dévastateur que dans d'autres régions du monde ?
C'est difficile à dire aujourd'hui parce que localement, sur le terrain, il y a toujours des appétits assez importants. Certains États ont un problème du contrôle de leurs frontières ou des marges du pays. On pense notamment au Cambodge ou la Birmanie où la situation n'est pas forcément très stable au niveau du développement des frontières. Mais ce dialogue a le mérite d'exister, a le mérite de faire des propositions au niveau gouvernemental sur des projets peu ambitieux, donc facilement réalisable, qui monte non seulement aux populations locales, aux administrations locales et ensuite aux gouvernements nationaux que c'est possible, et donc de renforcer les structures d'intégration.
Et donc de surmonter le passé et d'envisager un avenir commun.
Le passé là existe, les jeunes générations n'ont pas forcément le même regard que les anciens sur les relations que leurs pays respectifs ont pu entretenir. Travailler en commun, notamment dans le cadre de cet institut du Mékong, permet de créer des synergies, une meilleure connaissance commune et de mener à bien des petits projets qui, on l'espère, 1+1+1+1+1, les petites rivières forment les grands fleuves.
Comme le Mékong.
Comme le Mékong. จากวันที่รอพอสอที่ใจคิดถึงจากมุมหนึ่งของเมืองใหญ่ใกล้บ้านเรา
Voyage sur les rives du Mékong.
Merci, au revoir Anne-Cécile, au revoir Arnaud.
Demain Arnaud, nous nous intéresserons aux polluants chimiques.
Oui, nous recevrons Anne-Corinne Zimmer, auteure de Polluants chimiques, enfants en danger, révélation sur une contamination silencieuse.